Hello and welcome to La Crème Anglaise, le podcast où nous dégustons des spécialités britanniques et leur histoire dans mon salon de thé. Je suis Sarah Le Sage et ravie de vous avoir avec moi. Cette semaine, c'est un épisode un peu particulier. Je vous emmène avec moi à Brighton, sur la côte sud, à une heure de train de Londres, pour un supper club, avec une vingtaine d'invités, notre hôte et organisateur Gilly Smith et l'auteur journaliste culinaire Felicity Cloak. Je vais vous les présenter un peu plus tard et Gilly va nous expliquer qu'est-ce que c'est un supper club. Mais d'abord, pour vous mettre un peu d'eau à la bouche, je vais vous parler un peu de Brighton et The Community Kitchen, où je me suis trouvée un soir au mois de janvier. Alors, je venais à Londres pour un week-end pour aller voir un comédie musicale, cabaret, avec ma sœur et ma fille. Et quand j'ai vu que Gilly organisait ce supper club, je n'ai pas pu résister à son invitation. Déjà, j'adore les supper clubs, car on rencontre plein de nouvelles personnes intéressantes qui n'ont qu'une envie, de parler de cuisine. En plus, c'était avec un de mes auteurs et journalistes culinaires britanniques préférés, Felicity Cloak. Elle a déjà écrit un premier livre sur son tour de France gastronomique à vélo, à la recherche du croissant parfait, et elle vient de publier un nouveau livre qui trace sa route à vélo en Grande-Bretagne à la recherche des petits déjeuners traditionnels. Ce soir, le thème du repas, c'est « The Breakfast ». Alors, j'adore l'idée du breakfast le soir et j'ai presque envie d'arriver en pyjama. Mais bon, je suis arrivée en tenue normale vers 17h30 avec le soleil en train de se coucher. Et ce que j'adore, c'est l'arrivée à la gare de Brighton avec un premier stand de saucisses, Gourmet Bangers, un nom que les Anglais affectionnent pour les saucisses, tout de suite à la sortie de gare. Et puis, la vue directement sur la mer au bout de la rue principale. C'est un peu le San Francisco d'Angleterre. Brighton est une station balnéaire située à 76 km de Londres et c'est une ville de 270 000 bouches et 470 000 avec Hove, son voisin sur la même municipalité. Dans les années 1830, Brighton a connu son apogée comme la Riviera, très à la mode grâce au futur roi George VI qui a passé beaucoup de temps ici et qui a fait construire le Royal Pavilion, la résidence royale avec ses tourelles de style indien. Pendant la période victorienne, la plupart des attractions actuelles étaient construites. Le Grand Hotel, Hilton Brighton Métropole et les jetés Palace et West. Aujourd'hui, c'est une ville universitaire et touristique, connue pour ses communautés diverses, ses boutiques originales, une culture vibrante avec beaucoup de musique et des arts, mais aussi sa grande population de LGBT. C'est la capitale gay non officielle du Royaume-Uni et connue comme la ville le plus hippie, mais aussi le plus happy. Éclectique et pionnière, Brighton, la bonne vivante, présente un paysage gastronomique parmi les plus riches et les plus variés d'Angleterre avec plus de 250 restaurants. Mais ce soir, nous nous retrouvons avec une vingtaine de convives au Brighton Community Kitchen sur l'axe principal. En arrivant, je passe devant les grands baies vitrées où j'aperçois Felicity en train de terminer ses Victorian Deviled Eggs, des œufs durs dont la jaune a été mélangée avec des épices et une sorte de mayonnaise. Pendant que les invités arrivent, je voulais demander à Gilly sa définition d'un supper club. Je connais Gilly depuis longtemps, elle est podcasteur et auteure culinaire lauréat. Elle écrit et elle fait des émissions radio et télévision depuis les années 90. Mais pour moi, en plus d'être une amie et une inspiration, c'est aussi la personne qui m'a aidée à lancer ce podcast. Donc, Gilly, tu organises des supper clubs, ce qui sont des événements assez britanniques. Ça, tu fais depuis quelques années maintenant. C'est quoi exactement un supper club?
Well, and I'm going to answer in English because I'm way too shy to speak French.
Eh bien, et je vais répondre en anglais parce que je suis beaucoup trop timide pour parler français. Un supper club, un club de souper. C'est intéressant qu'il n'y en ait pas en France. J'aurais pensé que ce serait assez courant parce que c'est une célébration pour se réunir et de profiter non seulement du repas, mais de l'histoire autour de la nourriture. Alors, je sais que beaucoup de Français qui n'ont pas forcément écouté votre podcast penserait qu'il n'y a pas beaucoup d'histoires autour de la nourriture. Mais tes followers savent qu'il y a énormément d'histoires autour de la nourriture. Mais mes supper clubs ne ressemblent pas forcément avec ceux des autres. Ce que je fais dans mes supper clubs, c'est l'entremêler l'expérience culinaire avec une conversation avec le chef, qui est toujours un écrivain gastronomique, et nous parlons de la nourriture, nous parlons de l'origine de la nourriture. Donc, ce soir, nous sommes au Supper Club de Felicity Cloak, et elle a fait cet énorme tour de Grande-Bretagne en vélo à la recherche d'un petit déjeuner, quelque chose qu'on n'imaginera pas forcément comme un gros titre. Mais en fait, tout est question de nourriture, d'identité, d'héritage britannique, qui sommes-nous à travers notre nourriture? Et malheureusement, une grande partie de la nourriture qui disparaît du menu et du paysage britannique. C'est donc ainsi que j'organise mes supper clubs. Beaucoup de gens ont des supper clubs différents. C'est un mode énorme à Londres qui a commencé vers 2010 et c'était vraiment pour célébrer un type de cuisine ou un thème précis ou la signature d'un cuisinier. Très souvent, des cuisiniers éphémères, très souvent des femmes qui pouvaient le faire à toute petite échelle. Vous pourrez l'organiser dans vos propres maisons jusqu'à 20 personnes. Les gens vous payent pour la nourriture et l'expérience et ils rencontrent également d'autres personnes qui partagent votre intérêt pour la nourriture. C'est donc vraiment un bel événement qui rassemble les gens pour profiter de l'expérience culinaire.
C'est vrai que la nourriture, c'est vraiment la source d'une conversation, quoi qu'il arrive. Et c'est vrai que je me réjouis énormément pour cette soirée avec toi et avec Felicity. Et c'est vrai que tu es très impliquée dans l'importance de la nourriture en termes de culture, en termes d'identité, mais aussi l'importance de l'agriculture durable et l'accessibilité et l'éducation pour la bonne nourriture pour tout le monde. Qu'est-ce que ce livre de Felicity nous raconte sur les Britanniques?
So, I think donc, je pense que cela dit par-dessus tout que nous aimons réellement la nourriture et que cela pourrait surprendre la plupart des gens dans le monde. Mais la Grande-Bretagne a un patrimoine vraiment intéressant et les gens adorent en parler. Je veux dire, elle dit dans mon podcast qu'elle pensait que les gens pourraient trouver un peu prétentieux de parler de la nourriture, de certains ingrédients. Mais tout le monde aime parler de petit déjeuner. Et c'est ce qu'elle a découvert, et surtout parce qu'elle pose cette question, sauce rouge ou sauce brune. Je ne sais pas si tu veux expliquer cela à tes auditeurs, mais c'est le grand fossé. À tout à coup, vous avez cette dispute sur tout ce qui est britannique. La différence entre le nord et le sud, la différence entre le goût du tamarin et des épices, et même les choses que vous ne savez pas sur la sauce brune ou le côté doux et écœurant du ketchup. Beaucoup de gens mangent du ketchup avec tout. Donc, en fait, c'est probablement le sujet de ce livre. Il s'agit de la britannicité de la nourriture. Moi, j'ai trouvé ça vraiment fascinant, j'ai vraiment adoré, et c'est un de mes vrais coups de cœur de l'année dernière. C'est drôle, mais c'est profond. Et ce livre nous dit à peu près tout ce que nous devons savoir sur les Britanniques et leur nourriture.
C'est vrai que moi, j'ai adoré le livre. En plus, quand tu n'habites plus en Angleterre, c'est un vrai tour avec toutes les idiosyncrasies des Anglais, les vrais caractères. Et comme tu dis, les divide, c'est un peu pour moi comme le scone. Est-ce qu'on met le jam d'abord ou la crème? Donc ça, c'est le vrai sujet entre les gens qui habitent Cornouailles et les gens de Devon. Et donc, une dernière question. Est-ce que toi, tu es plutôt red sauce ou brown sauce?
Tu sais quoi, je ne mange ni l'un ni l'autre. Je trouve le ketchup trop sucré et il domine le plat. Et je suis vraiment gênée de dire que je n'ai jamais mangé de brown sauce car il n'y en avait jamais chez moi. Mais je m'y intéresse car c'est beaucoup plus compliqué que je ne le pensais. J'ai fait des mauvaises associations à ce sujet. J'étais trop snob à ce sujet pour être honnête.
Donc voilà, les invités sont là, une vingtaine, beaucoup de locaux, mais aussi des followers de Félicité et de Gilly. Et je crois que je suis la personne qui arrive du plus loin. On est debout dans la cuisine en train de boire du Prosecco et de goûter aux amuse-bouches de Felicity. The Victorian deviled eggs, des petites crêpes d'avoine avec des kippers, qui sont des herring fumés de Isle de Man, des saucisses de Cumberland. Tous les plats ce soir font partie de l'odyssée du livre de Felicity. Son tour de la Grande-Bretagne à vélo, red sauce, brown sauce. Nous passons à table pour déguster le soda bread irlandais avec du beurre fouetté avec du marmite, ce condiment noir et salé dont les Anglais se délectent. Mais aussi des galettes frites de coq et de bacon avec un mayonnaise aux algues. Ou du bubble and squeak, des galettes frites de pommes de terre et de choux pour les végétariens. Ça ne va pas être léger ce soir. Nous continuons avec une interprétation d'un full English breakfast. Un cassoulet avec des haricots blancs dans une sauce tomate avec des saucisses, du hog's pudding qui est un boudin blanc de Cornouailles et du boudin noir. Heureusement, il y a une salade verte pour alléger le tout. Et pour les végétariens, il y a des Glamorgan sausages qui ne sont pas du tout des saucisses, mais une recette du Pays de Galles très délicieuse à base de poireaux, de fromage et de vieux pain. Et il fallait que je goûte à tout, ce que j'ai un peu regretté avec l'arrivée de la tarte à la marmelade et sa boule de glace au whisky au flocon d'avoine. C'était tellement bon, sucré, acidulé, en même temps avec une pâte sablée qui fondait dans la bouche. J'ai pas osé demander un doggy bag, mais j'aurais dû. C'est une soirée vraiment sympa quand j'ai discuté avec beaucoup de monde sur le sujet de la cuisine et j'ai aussi dégusté des plats et des spécialités de quatre coins de la Grande-Bretagne dans un seul repas. De retour en France, j'ai recontacté Félicité par Zoom pour lui parler de ses deux derniers livres. Felicity Cloke est journaliste et auteure. Depuis 2011, elle tient une rubrique hebdomadaire dans le journal national The Guardian, How to Cook the Perfect, comment faire le plat parfait, dans lequel elle va tester plusieurs recettes pour un plat ou par un gâteau par exemple. Elle a écrit 7 livres et des articles de presse ont été publiés dans tous les journaux principaux anglophones. Elle se déplace aussi souvent que possible à vélo et parfois avec son chien Wilf, un Cairn Terrier. Ses deux derniers livres, One More Croissant for the Road, Un Dernier Croissant pour la Route, et Red Sauce, Brown Sauce, bon, la sauce rouge ou la sauce brune, sont des hymnes aux cuisines de la France et la Grande-Bretagne. Elle prétend qu'elle parle pas le français malgré ses vacances d'enfance passées dans le sud de la France, mais bon... Bienvenue Felicity, merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation. J'aurais bien voulu t'interviewer pendant le Supper Club, mais tu étais très bien occupée derrière le fourneau et c'était très très bon. Merci beaucoup.
Ah, de rien, c'était un plaisir.
Ah, tu vois, je sais que tu parles français,
non.
Mais bon.
Non.
On va quand même faire cette interview en anglais parce que c'est vrai que c'est déjà stressant pour moi, donc j'imagine pour toi encore plus. Alors, tes derniers livres racontent tes voyages à vélo à travers la France et aussi à travers l'Angleterre. Alors, la France, c'était encore un croissant pour la route. Et le dernier, à travers la Grande-Bretagne, sauce rouge, sauce marron, l'odyssée du petit déjeuner britannique. Alors, il faut peut-être juste expliquer, la sauce rouge, c'est du ketchup, et la sauce marron, c'est une sauce, alors je ne sais même pas comment le décrire. Qu'est-ce qu'il y a dans la sauce brown?
Des épices, dates, des pommes, du vinaigre, tamarind. Quelque chose d'autre. C'est une sauce d'épices assez sucrée, mais assez vinegary as well.
Ah, acidulée. Bah, oui, tu vois, oui. Tu parles très bien français. Bon, alors, la première question que je voulais te vraiment poser, c'est quand tu as fait ces deux voyages, quelle était la plus grande différence pour toi entre les personnes que tu as rencontrées en France et en Grande-Bretagne pour parler de la cuisine, de la nourriture, de la gastronomie?
I think the biggest difference was simply how wide the the interest went, and it wasn't as big difference as I assumed when I set.
Je crois que la plus grande différence c'était le niveau d'intérêt. Mais l'écart n'était pas aussi grand que ce que j'avais imaginé avant de commencer mon grand tour de la Grande-Bretagne.
A lady at a campsite, and she would have an opinion on where the best place to go, to, you know, to get Cassoulet and Toulouse, or.
Je n'étais pas surprise quand je suis arrivée en France et j'ai discuté avec une dame dans un camping qui avait un avis sur le meilleur endroit où aller pour un cassoulet à Toulouse ou quelqu'un d'autre dans un magasin qui me disait « vous devriez aller ici ou vous devriez aller là-bas ». C'était juste normal. Évidemment, je serais intéressée par la cuisine française et que je devrais l'essayer.
Which is white pudding, a boudin blanc.
Au Royaume-Uni, c'était un peu plus difficile. Au Supper Club, par exemple, nous avons mangé quelque chose qui s'appelle le Hog's Pudding. C'est du boudin blanc, qui est maintenant considéré comme une spécialité du Devon et des Cornouailles. Mais ce n'est pas très courant là-bas. Et même toi, tu m'as dit que malgré ton enfance en Cornouailles, tu ne le connaissais pas. Donc, ça doit être quelque chose qu'on s'efforce de faire perdurer. Il est seulement fabriqué dans des boucheries, on ne le voit pas au supermarché, et il est en train de disparaître, comme le Cornish pasty, qui était consommé de façon bien plus répandue autrefois. Ce coin de l'ouest de la Grande-Bretagne est si isolé qu'il est le dernier bastion de ce pudding de porc. Je pense que les gens sont un peu moins bien informés sur leur cuisine traditionnelle. Ce n'est pas de leur faute, c'est juste que nous sommes industrialisés depuis bien plus longtemps et notre système alimentaire en a souffert. Si on était en France, il y aurait une confrérie du boudin de porc, il y aurait une fête et ça serait surtout les menus locaux. Mais il n'y a pas le même engouement à la base et pas le même soutien municipal pour les produits locaux et c'est bien dommage. Il y a des actions isolées. Par exemple, je suis allée au championnat du monde de porridge en Écosse. Il y a des championnats de dog pudding dans le Yorkshire. Ce n'est pas du tout un pudding. En fait, c'est fait à partir de mauvaises herbes. Bref, il y a des initiatives, mais ce n'est pas aussi bien organisé qu'en France. Et quand j'y pense, nous sommes, de toute façon, moins bien organisés comme pays. Nous sommes un peu plus laissés faire qu'en France. J'ai trouvé beaucoup de gens passionnés par les produits locaux, mais je dirais que le savoir-faire est moins répandu.
Oui, je pense que historiquement aussi, déjà les Anglais ils sont très critiques de leurs propres produits, oui. De leur propre cuisine, alors que la France, ils adorent célébrer, ils sont beaucoup plus proches des terroirs, donc je peux imaginer. Mais je crois que maintenant, on commence à trouver des niches en Angleterre, comme tu dis, le Porridge Festival avec le Spurtle. et puis, il y a le Marmalade aussi. Donc, petit à petit, ça vient. Mais c'est vrai, historiquement, en France, ils sont beaucoup mieux organisés.
Yeah, and you're, you know, the French
et oui,
are prouder
les Français sont plus fiers des choses. Tu as raison. Au Royaume-Uni, il paraît prétentieux, même presque vulgaire, de se soucier de la nourriture. Et si quelqu'un veut discuter de la gastronomie, il est immédiatement vu comme un snob. Et tous ces gens qui ne peuvent pas se le payer, on ne prend pas pour acquis que les gens devraient pouvoir se le permettre, qu'ils devraient y aspirer. C'est une chose très étrange et je suis très envieuse de l'attitude des Français à l'égard de la nourriture.
Bah écoute, déjà pour le Supper Club, tu nous as fait un vrai festin, assez fort en féculents, il faut dire. alors, dans le menu, on avait trouvé un petit déjeuner entier, un full English breakfast, dans une sorte de cassoulet avec des haricots blancs, une sauce tomate, des bacon, du bacon, le Hog's Pudding dont tu viens de parler, qui n'est pas un pudding sucré, il faut dire, des saucisses. Alors, les Français ont découvert depuis quelques années le brunch, qui est un peu, qui est la fusion entre breakfast and lunch. Alors, c'est devenu très populaire à Paris. Tu peux plus réserver. Vraiment, c'est devenu le repas de la semaine. Alors, moi, j'adore cette idée qu'en fait, on est en train de casser des barrières. On n'a plus forcément breakfast, dinner, supper, petit déjeuner, déjeuner. On peut manger tout à n'importe quel moment de la journée. Et j'adore l'idée qu'on peut manger le petit déjeuner le soir. Est-ce qu'on est en train de lancer un nouvel mode? On pourrait l'appeler ça, je ne sais pas, le brupper ou le supfast.
Non.
En fait, je pense que c'est une vieille idée qui est en train d'être ravivée. Et ce que j'ai trouvé vraiment intéressant lors de mes recherches pour ce livre, c'est que jusqu'à récemment, peut-être jusqu'à la période d'après-guerre, cette idée d'un petit déjeuner anglais complet ou d'un petit déjeuner écossais complet ou le fry-up n'existait pas. Tout était connu comme un mixed grill, un assortiment de mets frits et grillés, en général, et c'était servi pour le souper ou le dîner. On en mangeait quelques éléments au petit déjeuner, mais ce n'était pas quelque chose, la chose sacro-sainte que c'est devenu aujourd'hui. Cela m'intéresse car nous en mangeons moins, moins que jamais, mais nous sommes plus difficiles quant à sa composition. Autrefois, ce hog's pudding, le boudin blanc, et même le porridge étaient consommés à tout moment de la journée. Les ouvriers agricoles écossais et les gens du nord de l'Angleterre auraient mangé du porridge trois fois par jour parce que c'était la nourriture de subsistance, comme les pâtes, le pain, la polenta, etc. Je pense que nous devons accepter que malheureusement, la plupart d'entre nous n'ont pas le temps de prendre un petit déjeuner complet tous les jours. Nous voudrions peut-être le faire, mais nous ne le faisons tout simplement pas, quoi que nous pensions de ces implications pour la santé. Et donc, si nous voulons garder ces choses, nous devons les rendre populaires de nouveau et arrêter de les cloisonner en disant que vous ne pouvez prendre un kipper ou un hareng salé ou fumé que pour le petit déjeuner, par exemple, et pas à un autre moment de la journée. Ça, ça serait leur mort.
Ouais. Donc, en fait, on n'est pas en train de réinventer quelque chose. On est juste en train de revenir à la source, à des choses qu'on mangeait autrefois, comme tu dis, à n'importe quel moment de la journée.
Exactement.
Et c'est vrai que j'adore l'idée de petit déjeuner le soir en pyjama à 18h.
Ah oui.
Alors, pour revenir à quelques d'autres plats sur le menu, alors, tu nous as fait un super soda bread ou les farles d'Irlande avec du beurre au Marmite. Alors, je sais que tu voyages partout oui. avec ton pot de Marmite.
Toujours.
Mais j'ai beau à essayer, je n'arrive pas à convaincre les Français que c'est bon, le Marmite. Alors, eux, ils continuent de le détester, alors que moi, je l'adore aussi. Qu'est-ce que le Marmite va apporter au beurre? Parce que tu as fait un mélange de beurre et Marmite. Qu'est-ce que ça a apporté?
It brings this incredibly savory quality and...
Il apporte cette qualité incroyablement savoureuse. Et je pense qu'il est plus facile pour les gens de comprendre le Marmite s'ils comprennent qu'il n'a pas été développé comme quelque chose à tartiner sur le pain à l'origine. Oui, vous n'aimeriez peut-être pas l'étaler sur du pain, mais c'est une chose incroyablement utile à mettre dans les ragoûts et les soupes, par exemple. Je pense que tes auditeurs français seraient choqués, mais il ajoute vraiment un petit quelque chose à une soupe à l'oignon si vous n'avez pas un bon bouillon de bœuf. À moins de travailler dans un restaurant, vous n'avez probablement pas le temps de le faire mijoter et de le réduire. Et donc, une petite cuillère de Marmite apporterait juste ce côté savoureux. Le Marmite apporte cette note umami au beurre, qui est déjà délicieux, gras et salé. Le Marmite a ça en quantité. Donc, je suggérerais aux personnes curieuses de l'essayer, de le considérer plutôt comme un produit umami, comme le parmesan ou les tomates, et non comme quelque chose de bizarre. Associez-le également à quelque chose de sucré, comme le soda bread irlandais. Le soda bread irlandais contient souvent un peu de sucre roux, et je pense que cela se marie à merveille avec le Marmite, qui est si savoureux. Et au Royaume-Uni, je suis sûre que tu trouveras ça vraiment bizarre, mais j'adore les sandwichs à la banane et au Marmite.
So delicious.
Oh.
Là, tu as atteint ta limite.
Mais en fait, c'est drôle parce que ça me rappelle, je ne sais pas si tu avais découvert le Maggi en France. Alors, en Alsace, ils adorent le Maggi. Ils les mettent sur la table dans les restaurants, enfin les fermes auberges, que tu rajoutes à ta soupe. Et j'ai vu des gens carrément le mettre sur le pain. Donc, finalement, c'est un peu la même chose. C'est juste, voilà... c'est les choses méconnues que souvent les Français sont assez méfiants.
Oui, c'est très similaire. Et pourtant, les gens ont vraiment peur de l'un d'entre eux.
Alors, une autre chose que j'aimerais que tu nous expliques, tu avais préparé un lava bread mayonnaise, une mayonnaise au lava bread. Alors, il faut expliquer que ce n'est pas de la lave et c'est pas du pain non plus.
Non, pas
Qu'est-ce
de farine.
Qu'est-ce que c'est le lava bread?
It is a seaweed and it's actually it's the same sort of seaweed as is used in Japan.
C'est une algue et
rolls.
C'est le même type d'algue que le nori qui est utilisé au Japon pour les rouleaux de sushi. J'ai le nom scientifique quelque part, mais c'est juste une algue rougeâtre que l'on trouve sur la côte ouest de la Grande-Bretagne et de l'Irlande. Et je suis sûre aussi sur la côte ouest de la France. Je pense que vous pouvez le trouver en Bretagne et dans des endroits comme ça. On le ramasse sur la plage. Il est incroyablement riche en vitamines, minéraux et même en protéines. On le ramasse et on le lave pour se débarrasser de toutes les bestioles qui pourraient s'y cacher. Et puis, on le fait bouillir pendant des heures jusqu'à ce qu'il devienne une espèce de purée verte épaisse. Donc, il est rouge sur la plage et il devient vert avec la chaleur et se décompose en purée mucilagineuse qui, je le sais, c'est pas vraiment très appétissant.
Et surtout que je dois traduire ce mot.
Oui, c'est ton défi. Et oui, et ça a un peu ce goût de fer, d'épinards, de sel, une saveur minérale, et c'est tellement bon. Tellement bon pour notre santé à tous. On ne le voit plus vraiment beaucoup, même au Pays de Galles, mais c'est un aliment gratuit et nous devrions en manger plus. J'aimerais le voir réapparaître dans tous les endroits qui le produisaient autrefois. C'était un très bon remède contre la carence en iode, car il contient beaucoup d'iode. Il faudrait remettre les algues gratuites au goût du jour. Et les Japonais l'ont bien compris.
Exactly. Et alors, pour le fin du repas, tu nous as fait un dessert incroyable. Alors, j'ai regretté que j'avais tellement mangé avant parce que j'avais plus beaucoup de place. Mais une tarte à la marmalade. Alors, quand j'ai vu cette idée des desserts, je me dis, mais c'est juste dingue. Le pain grillé et la marmalade, c'est tellement britannique. Les Français, ils ont vu ça, la reine et Paddington Bear, quand ils ont mangé pour sa jubilée. Comment tu as eu l'idée de le transformer en tarte?
Eh bien, j'ai senti que je devais inclure la marmalade sous une forme ou une autre, car les petits déjeuners anglais et irlandais ne sont pas riches en sucrerie. Traditionnellement, nous n'avons pas la dent sucrée au petit déjeuner, mais la marmalade et les confitures sont le seul aspect sucré que nous avons. Moi, je suis une grande fan de la marmalade. Mis à part le rôle de Paddington Bear, la marmalade est considérée comme un condiment pour les personnes âgées, car il a cette amertume et des morceaux d'écorce. C'est quelque chose auquel on s'habitue et qu'on n'aime pas forcément quand on est enfant. Je voulais utiliser ça plutôt qu'une confiture plus commune. Et nous produisons d'excellentes confitures. En Écosse, les baies sont vraiment excellentes à cause de toute la lumière du soleil qu'elles reçoivent. C'est pas un soleil chaud, mais elles reçoivent beaucoup de soleil et les baies sont incroyables. Mais la marmalade semblait être l'une de ces choses si typiquement britanniques qu'il me semblait que je devais l'inclure. Je me demandais ce que je devais en faire. Un pudding cuit à la vapeur, peut-être? Et puis j'ai pensé que je devrais essayer de la sublimer. Et il y a quelque chose que nous avons ici, qu'on appelle le treacle tart. C'est une tarte à la melasse, qui contient en fait du golden syrup, un sirop doré, plutôt que de la melasse. C'est une très vieille idée, et je suis sûre que les Français ont des desserts similaires quand ils utilisent juste du vieux pain rassis. Donc on remplit une pâte à tarte avec de la chapelle pur et on le trempe simplement dans du beurre et des jus sucrés et on le fait cuire. C'est absolument délicieux, mais je suis sûre que votre dentiste ne l'aimerait probablement pas autant. Moi, j'ai pensé, et si je remplace le sirop doré par la marmelade? Et en fait, je l'ai préféré car la marmelade apporte un côté agrume et cette délicieuse amertume du zeste. Alors oui, j'en étais ravie et je pense que je vais le refaire, contrairement à une tarte à la mélasse traditionnelle.
Et donc, finalement, on va revenir au petit-déjeuner en France, parce que après ton grand tour de France et ton livre « Encore un croissant pour la route », est-ce que tu peux me dévoiler où se trouve le meilleur croissant de la République ?
Oh, this is a very hard one, isn't it? And also, I have to say that my info is.
Alors ça, c'est très compliqué, n'est-ce pas? Et aussi, mes informations vont être un peu obsolètes, car je ne suis pas allée en France depuis plus d'un an, sauf dans les Alpes. Mais le croissant que j'ai le plus apprécié, je suis désolée pour tous vos auditeurs en province, oui, à Paris. Je suppose qu'il y a juste plus de concurrence à Paris. J'ai eu de très bons croissants. Je pense que j'en ai mangé 7 en une matinée. Même si, pour être clair, je ne les ai pas tous mangés, à mon grand regret. Je voulais le faire, mais je ne l'ai pas fait. C'était un endroit qui s'appelait Au Blé Sucré, et je pense que c'était à la Bastille, et c'était tout simplement délicieux. Pour être honnête, je n'ai eu que quelques mauvais croissants lors de mon voyage de cette semaine en France. Vraiment pas beaucoup. Donc, vous avez beaucoup de chance en France. Ils sont tous bons.
Bah écoute, j'y vais à Paris la semaine prochaine. Ça va être ma mission d'aller goûter ce croissant et te faire un rapport pour te dire si je trouve que c'est encore la meilleure croissant en France.
Maintenant, j'ai peur.
Merci, Félicie. Merci beaucoup.
Merci, merci.
Merci d'avoir écouté La Crème Anglaise. Vous trouverez la recette d'une tarte à la marmalade de Félicie sur le site web. Et vous pouvez également trouver toutes mes meilleures adresses pour les restaurants, les salons d'été en France et en Grande-Bretagne. À très bientôt pour un nouvel épisode. So, cheerio, goodbye, and see you soon.